Puis là, ben c'est Luc.
Salut Bernard.
Salut mon Luc. On parle de M. Legault pour
on
commencer.
On parle de M. Legault, puis je vais commencer en disant, écoute, j'ai été très critique de M. Legault au début de son mandat.
Ouais.
Depuis le début de la gestion de crise, j'ai été très louangeur à l'égard de M. Legault.
Ouais.
Mais là, il me déçoit. Là. Vraiment, là, ça fait 3 jours là, qu'on est autour de commémorations de la mort de Joyce Essaquan, puis en même temps, de tout ce qui se passe avec les pensionnats puis les gens qui investissent là-dedans pour qu'on aille trouver davantage d'ossements, pour qu'on sache combien d'enfants sont morts.
Les sépultures, oui.
Mais il a trouvé moyen... D'abord, avant-hier, de se pogner avec... c'était avec la chef de l'opposition,
Madame Anglade.
Madame Anglade, qui posait une question, ma foi, je dirais pas insignifiante, mais elle posait une question.
Sur le racisme systémique,
ouais,
là.
L'affaire du racisme systémique.
Ouais, ouais.
Il y en a profité pour se fâcher.
Oui.
Parler contre Greg Kelly, puis le discours qu'il avait fait en juin, comme si ça veut dire... Il a le droit de sortir ça, il a le droit de faire ça. C'est comme ça que ça marche, la politique. Mais il est le premier ministre. Et c'est pas le temps, dans ce temps-là, quand on parle de commémoration d'une mort tragique, quand on parle d'une histoire comme pays qui est absolument dégoûtante quand on pense à cet aspect-là,
ouais.
Il aurait dû trouver un autre ton. Parce que là, hier, on s'est dit, moi, je m'étais dit, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va retrouver son ton qui était magique depuis le début de la pandémie. Mais non, il en a rajouté un autre claque, puis le discours de M. Kelly, puis c'est... Oh boy! Alors là, je me suis dit, de deux choses l'une. Ou bien il est fatigué, ce serait humain.
C'est possible.
Ce serait humain.
C'est possible.
Ou bien alors, il a décidé qu'il se faisait du fun. Parce que peut-être que c'était un gars, c'était un politicien. Alors depuis qu'il est élu, là, il a été élu en octobre.
Oui.
Alors la pandémie a commencé 4-5 mois plus tard.
Il était là en octobre 2018. La pandémie a commencé en mars,
d'accord,
mars 2020.
Ouais. Mars 2020. Alors, un an et demi?
Oui.
Alors, la première année et demie de son mandat, bon, c'était de la bonne politique, ceci, cela, plus des petites lois que j'aime pas trop, mais qu'on a décidé de pas discuter, toi et moi. Mais il me tapait un peu sur les nerfs, franchement, là.
Ouais.
Et quand je l'ai vu arriver dans la pandémie, même si ça a mal été dans la première vague, vraiment mal été, vague où nos aînés mouraient, puis moi, c'était dégueulasse, malgré ça, je trouvais qu'il avait un ton tellement bien choisi. Je pense pas que c'est quelque chose qui a été répété comme un acteur. Je pense que c'était sincère.
Oui.
Il a fait en sorte que les Québécois le suivent. Pour dire le vrai, regarde le taux de vaccination à l'heure actuelle.
Bien sûr.
Il a fait en sorte qu'on l'a suivi, puis il y a eu l'appui de Christian Dubé et d'autres. Alors moi, j'étais en train de dire, remercions le ciel pour François Legault, parce que la gestion de pandémie qu'il a faite, première vague, affreux. Deuxième vague, un petit peu mieux. Troisième vague, oups, on sent que le contrôle revient. Puis là, on est dans la quatrième vague, puis écoute, je regarde nos voisins au sud, je regarde nos voisins à l'est, à l'ouest, je regarde les pays d'Europe. On est parmi ceux qui sortent le mieux de la quatrième vague, donc je reviens à M. Legault. Regardez, là, aujourd'hui, là, l'affaire des congés fériés. Je le sais, M. Legault l'a dit quelque part en juin dernier.
Il l'a dit qu'il n'y en aurait pas de congés fériés.
Il a dit ça en juin dernier, puis il avait dit on n'est pas en faveur d'ajouter des journées fériées pour quelque raison que ce soit au Québec. Alors aujourd'hui, on lui demande, parce que tu sais que le Canada souligne depuis cette année une journée en mémoire des enfants autochtones qui ont perdu la vie dans un pensionnat. Bon, le Québec n'en a pas fait un jour férié, mais il n'est pas le seul, l'Ontario encore, pas encore jusqu'à maintenant, Saskatchewan pas encore jusqu'à maintenant.
Ouais.
Mais la question se pose, c'est une question qui
légitime,
se pose.
Ouais.
Réponse de Legault, non, parce que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la productivité. Aïe, aïe,
ouais,
aïe, aïe, c'est...
Encore une fois, c'est la manière.
Mais c'est
parce
la
que
manière.
Sur le fond, il l'avait déjà dit, mais là, c'est les mots choisis, puis ouais. le ton.
Tu l'as connu, toi, en politique, depuis longtemps qu'on le connaît en politique.
Bien sûr.
On disait toujours de Legault que ça lui arrivait trop souvent de faire des gaffes. Puis depuis le début de son mandat actuel, non. Mais je pense que c'est la première. Je pense que, franchement, là...
Mais je vais dire, Luc, je reçois beaucoup de courriels puis de textos. Évidemment, les auditeurs le savent qu'on est une émission très interactive. On va dire ça de même. Puis je vais dire, la majorité des gens qui m'écrivent, par exemple, Nathalie qui me dit, en tant que propriétaire d'une très petite PME, je suis entièrement d'accord avec M. Legault, c'est extrêmement coûteux une journée fériée, surtout avec ce manque de main-d'œuvre. Puis j'ai beaucoup d'autres témoignages qui vont dans ce sens-là.
Il faut faire attention, hein, parce que j'en reçois aussi des emails. J'en reçois un hier, une madame qui commence, ben, c'est bien écrire ça. D'habitude, ça attire mon regard.
Ouais.
Elle commence à dire, ben, je tiens à vous remercier, M. Lavoie, parce que vous avez été le seul à mentionner une chose très importante à propos des Autochtones.
Mm.
Là, je dis, vous avez dit qu'ils ne payent pas d'impôts sur leurs réserves. Elle ajoute, elle change de paragraphe. Ben, elle dit, c'est à peu près temps que les gens du Québec comprennent cette injustice. Comment ça se fait que ces gens-là ont des conditions meilleures que les nôtres? Puis là, tu dis, oh mon Dieu Seigneur, qu'on part de loin. Oh, baba, baba, baba.
Mais j'allais dire, Luc, c'est pas. J'allais ajouter, on peut être d'accord avec Legault sur le fond.
Je le suis.
Tu sais? Mais lui reprocher le ton et les mots utilisés aujourd'hui. Et moi, c'est mon point de vue. C'est
une
mon point de vue.
C'est une sorte d'attitude générale.
Tu sais, il faut
encore une fois, remercions le ciel qui a été là pour gérer cette crise. Si on le compare à Doug Ford, si on le compare même à Trudeau, il a fait le travail comme pas un. Alors, on parle de M. Legault qui s'enfarge les pieds dans tout ce qui est la question autochtone depuis 2-3 jours. Maintenant, la Cour d'appel fédérale a rejeté 2 recours d'Ottawa qui portaient appel de 2 décisions portant sur sa responsabilité à l'égard des services offerts aux enfants autochtones. Écoute bien, là, 2 jugements qui sont favorables. Il y a même un tribunal qui avait ordonné de verser 40 à 50 000 $ pour chaque enfant autochtone afin que le gouvernement fédéral ne porte pas la décision en appel. C'était une décision qui concernait l'obligation du gouvernement de livrer certains services. La Cour a donné raison aux Autochtones. Le fédéral est allé en appel. Ils ont perdu. Mais quand Justin Trudeau se promène et qu'il fait petit spectacle, j'aime les Autochtones. Ouais. Regardez, j'ai mis des plumes d'Autochtones. Ouais, je me suis excusé à tous les Autochtones et patati patata.
Oui, mais pendant ce temps, son ministère de la Justice, lui.
Ben, c'est ça. Parce que tu comprends, Bernard, c'est pas.
Il fait le contraire. Dans
moi, ils me font rire. Quelqu'un, j'entends déjà des voix qui me diraient oui, mais là, c'est indépendant. Attention, là. Quand tu es dans une cause. Puis que tu as des avocats, ben les avocats ont des clients. Puis le client ici, c'est le gouvernement fédéral. Puis le patron du gouvernement fédéral, c'est Justin Trudeau, qui se pète les bretelles concernant les Autochtones, mais qui s'en va demander à ses avocats de porter en appel une décision qui apparaissait tellement juste que l'appel du fédéral a été rejeté. Alors, faut que... Ou bien le bras droit, c'est pas ce que le bras gauche fait, ce qui est pas impossible... Ou bien tout ça, c'est de la.
Il y a un petit peu
de la poudre aux yeux.
Un petit peu d'hypocrisie.
Un petit peu d'hypocrisie, en effet.
Bon. OK. Tu veux-tu qu'on parle un petit peu du chef d'état-major aux États-Unis, là? Parce que lui, il m'a dit, il parle pas avec la langue de bois.
Il n'y a pas la langue de bois, en effet. Je l'ai d'ailleurs regardé, son témoignage.
Ah, il est exceptionnel, ce bonhomme-là.
Il est très, très bon.
Il est très, très éloquent. Hein?
Mais c'est le premier qui a eu le courage de le dire. Et je le cite, « Il est clair et évident pour nous tous que la guerre en Afghanistan ne s'est pas terminée dans les termes que nous voulions. » Il a dit encore plus, « Les États-Unis ont perdu la guerre menée pendant 20 ans en Afghanistan. » C'est ce que Mark Milley a
affirmé. Oui.
Et ça, là, ça aussi, ça me fait mal au cœur. Parce qu'il y a des Québécois... des Canadiens qui sont morts au champ d'honneur, comme on dit, pour rien. On est là, puis tout ça, c'est que pour rien, il n'y a rien. Des jeunes Québécois, 18-19 ans, qui se sont enrôlés dans les forces armées canadiennes, puis qui ont été vivre cette aventure, comme certains la conçoivent, et qui sont revenus de là très sérieusement blessés au plan psychologique.
Exact.
Et ce qui se passe présentement, l'admission de défaite, l'admission de, comment dire, d'échec complet... Ça vient dire à ces gars-là, parce que je les connais, comme tu sais, j'ai mangé avec 3 d'entre eux le week-end dernier. C'était 3 qui sont allés en Afghanistan, dont un avait été dans une mission. Ouh! OK, puis, tu sais, ça les dérange tellement, tout ce qui se passe, le retrait, c'est fini.
Ils se demandent si leur sacrifice a servi à quelque chose.
Puis, ils ont déjà un trouble psychologique parce qu'ils ont vu du sang, parce qu'ils ont vu des choses immensément violentes et tout.
Oui.
Puis là, tu viens leur annoncer, en plus, voici la goutte qui fait déborder le vase.
Ça a servi à rien, votre affaire.
Ça a servi à rien, votre affaire.
Ah non,
c'était une défaite cuisante qu'on a vécue.
Oui.
Et qu'on aurait pu éviter. Parce que c'est pas trop long, il était parti là-bas,
La première partie est une réussite. Quand
il allait retirer Al-Qaïda. Il faut que les gens comprennent qu'Al-Qaïda, c'est une organisation qui a été créée par un Saoudien avec l'argent de sa famille, la famille Ben Laden, une des plus riches au monde, et qui s'est, en quelque sorte, loué un espace en Afghanistan, pays qui était dirigé par des fous furieux comme les talibans et qui avaient besoin d'argent, sont arrivés, se sont installés là, ils ont construit des zones d'entraînement pour le combat, ils ont développé tout leur système informatique pendant qu'ils étaient là, ils ont été retrouvés après qu'ils ont été capturés. Tout ça, là, il fallait mettre fin à ça instantanément. Écoute, 2 mois après le lancement de ça, c'était fini. Il n'y avait plus d'Al-Qaïda. Ils étaient tous partis.
Puis les talibans étaient délogés du pouvoir.
Ils étaient carrément délogés du pouvoir. Ils ont choisi une mission de combat. C'est ce qui est assez particulier. Les troupes canadiennes n'étaient pas allées dans une mission de combat depuis la Corée, au début des années 50. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête, mais je sais que les Américains, c'est clair qu'ils apprennent jamais rien. Vietnam, qu'est-ce qu'ils ont appris du Vietnam? Qu'est-ce qu'ils ont appris de l'Irak? Qu'est-ce qu'ils ont appris de l'Afghanistan? J'espère qu'ils ont appris une chose. Tu peux pas, comme ça, projeter ta puissance militaire au bout du monde. Et maintenant que les chiffres sont connus, on parle de 5 000 milliards de dollars.
Que ça a coûté.
Que ça a coûté.
Puis combien de milliers de morts?
Du côté des Américains, c'est 3 000 à peu près, mais du côté de la population civile, 100 000.
J'allais dire.
100 000, j'allais dire. Tu comprends?
Alors... Ah ouais. Mais c'est pas juste projeter sa puissance militaire, c'est aussi
projeter
son système de valeurs, voilà. Et penser que tu vas t'installer dans un pays, puis tu vas transposer ta culture politique, ouais, dans le pays que tu t'en vas occuper, parce que c'est ça qu'ils ont fait, là.
Mais ils ont fait, bon, la même chose au Vietnam.
Mais
ben,
hein? Ça n'a pas marché ni dans un cas ni dans l'autre.
Ouais,
pourquoi? Parce que les populations locales ont dit, c'est pas nous autres.
Mais c'était une force d'occupation. Ouais. Ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent. C'est une force d'occupation qui ne parle pas la langue locale et tout ça. Enfin.
Bon, enfin, est-ce qu'ils vont tirer les leçons? On verra bien. Juste avant de se laisser, parlons de Sarkozy, l'ancien président français. Il va-tu vraiment faire de la prison, tu penses?
Non, ben non. Hein? Il a été condamné jeudi à 1 an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne. Mais là, il va en purger, je pense, 1 an chez lui, avec des limites imposées. Je ne les connais pas, les limites. Mais ils ont accepté que M. Sarkozy n'aurait pas à vivre l'humiliation de porter le bracelet à la cheville que les Français ont maintenant autorisé et qu'ils utilisent.
Mais t'es-tu surpris quand même? Il a quand même été condamné pour corruption et trafic d'influence. Un ancien président français, Luc, honnêtement,
Sarkozy, il n'y avait aucun scrupule. Il prenait l'argent où il pouvait.
Non, mais,
on connaît ses relations avec la Libye et tout ça.
Mais on connaît aussi la tolérance du système français avec un grand S à toutes ces affaires de corruption.
Incroyable, d'ailleurs.
Tu sais, comment dire?
En France, les gens tiennent pour acquis qu'un politicien, ça peut être efficace des fois, mais c'est corrompu. C'est fini.
Alors là, le système dit, c'est fini, ça. Ou en tout cas, il y a des choses qu'on ne tolère plus.
Ouais.
Ça, c'est quand même, je dirais, quasiment révolutionnaire, là.
Ouais. Tu vois, c'est il y a 7 mois, là, sa première condamnation, et puis ça, il devenait ainsi le premier ancien président de la 5e République.
Ouais.
Ça me surprendrait, moi, je pense, c'est plutôt de tout le siècle. Je me souviens pas qu'un président français, même sous la 4e, sous la 3e...
A été condamné au criminel.
Jamais. D'autant plus qu'en France, le système constitutionnel fait en sorte qu'ils jouissent, les présidents et ex-présidents, d'une immunité quasi totale. Sauf que là, on vient de voir qu'il y a un tribunal... Il a cassé l'immunité. Il va s'installer avec Carla Bruni, probablement dans une maison plutôt confortable. Il va continuer à être sur toutes sortes de conseils d'administration... Puis j'imagine que le genre de condition affreuse, c'est tu peux sortir, mais sur ta cour arrière, OK? Tu peux avoir des invités, mais pas plus que 10. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est ça la politique en France. Ça a toujours été ça la politique en France. Écoute, c'est incroyable.
Oui, mais c'est ça. Il va pouvoir sortir, mais... Il va être un petit peu plus limité.
Mettons.
Hein?
Mettons.
OK, Luc, tu bouges pas parce qu'après la pause, on va parler avec un porte-parole de la police de Montréal qui va venir nous parler de ses nouvelles escouades pour lutter contre les armes à feu, l'inspecteur David Shane, dans un instant.